à tous de les deux. Attention pour décompte final. 3, 2, unité, feu.
À la recherche de la Spoutnik Terre, c'est votre capsule scientifico-spatiale propulsée par les ondes de Radio U chaque deuxième mardi du mois à 19h. Ici, pas de mathématiques et d'explications alambiquées. Juste une balade dans l'espace et le temps, à bord d'une capsule aussi charmante que récalcitrante, à la poursuite des sondes spatiales les plus aventureuses du système solaire, et à la découverte de paysages qui sortent de l'ordinaire.
Ordinateur, ouvre une entrée s'il te plaît. Journal de bord de la capsule. Date stellaire 2604.25. Notre voyage vers la Terre et son satellite est plus long que je ne l'aurais imaginé. Pluton n'est définitivement pas la porte à côté. Nos moteurs sont à pleine puissance et les améliorations fournies par le décodeur nous permettent en ce moment de passer l'orbite de Saturne. Le chemin est encore long et la tentelle me semble interminable. Il y a bien longtemps que je n'avais pas eu autant de temps devant moi. Suffisamment en tout cas pour remettre en état certaines parties de la capsule dont j'avais presque oublié l'existence. L'aire de stockage du pont 2 fourmille de cartons remplis de pièces détachées, probablement plus fabriquées depuis de nombreuses années. J'ignore qui les a placées là, et encore moins depuis quand. Si leur système de numérotation reste pour moi un mystère plutôt impénétrable, j'ai pu récemment mettre la main au prix d'une bataille dantesque contre celle nommée étagère 26B316, sœur de l'étagère 26B315, gardienne des cartons à l'étiquette noire et grande ambassadrice des stockages de gros volumes, des pièces nécessaires à la réparation de la baie d'observation de la capsule. Après une après-midi où j'en ai bien Stop. Ordinateur, supprime la dernière phrase. Merci. Reprise. Après plusieurs après-midi de dur labeur, et une grosse sueur froide et même vide après l'ouverture d'une écoutille mal verrouillée, mon voyage prend une toute autre tournure avec l'ouverture de cette immense fenêtre sur le cosmos qui m'entoure. Ordinateur. Stop. Vous êtes là. Venez avec moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Bienvenue Spoutnik Terrien, à bord de la baie d'observation, toujours à l'intérieur de votre capsule spatiale, bien évidemment propulsée par les ondes de la radiophonie avec un grand U. Aujourd'hui, vous savez quoi? On va profiter du voyage. Pas d'explosion, pas de traquenard, pas d'affolement, on se cale avec un chocolat chaud au fond des fauteuils bien mous de la baie d'observation. On va découvrir un objet de l'espace lointain, aussi intéressant par sa propre histoire que par celle de sa découverte. Alors, chers voyageurs, attrapez le plaid situé sur votre gauche, conconnez-vous confortablement à l'intérieur et n'en sortez plus ni les mains ni les pieds car vous risqueriez d'en pincer pour sa majesté aux mille couleurs, j'ai nommé la nébuleuse du crabe. Regarder le ciel, c'est avant tout regarder le passé. Une formidable machine à voyager dans un temps qui s'allonge à mesure que la distance croît. Une occasion pour nous de parfois remonter le fil de nos civilisations, tout aussi intriguées par ces objets que nous caressons aujourd'hui le désir de les explorer. Nous sommes en 1054, au mois de juillet. Dans un monde au milieu de ce qu'on appellera des siècles plus tard le Moyen-Âge. Nous sommes près de 300 ans avant la guerre de 100 ans et 12 ans avant le passage remarqué de la comète de Halley lors de la bataille d'Hastings. Dans ce qui deviendra plus tard la France, et pas n'importe laquelle, Henri Ier, troisième roi de la dynastie des Capétiens, règne sur un royaume franc particulièrement fragile. À l'autre bout du monde, la dynastie Song règne sur une société dont l'histoire peut trouver un point de départ quelques 2000 ans auparavant. La Chine impériale des Song s'étend sur toute la partie orientale de la Chine actuelle. En 1054, le règne de l'empereur Zong Renzong est entré dans l'ère Ziyi, lorsqu'un événement marque le récit des chroniqueurs de l'époque. Yang Weide écrit Erzié, première année, 7e mois lunaire, 22e jour. J'observe humblement qu'une étoile invitée est apparue. Au-dessus de l'étoile, il y a une faible lueur de couleur jaune. Si l'on examine les divinations concernant l'empereur, l'interprétation de cette étoile peut être la suivante. Le fait que l'étoile n'ait pas envahi Bi et que sa brillance soit importante signifie qu'elle représente une personne de grande valeur. Je demande à ce que ceci soit communiqué au bureau d'historiographie. Ma Jualin rapporte plus succinctement. Première année de l'ère Ziyi, 5e mois lunaire, jour Yishu. Une étoile invitée est apparue au sud-est de Tiangang, peut-être à quelques pouces de celle-ci. L'événement, bien que rare, n'est pas unique, mais son importance historique tient au fait qu'il ait été observé et documenté par différents peuples par-delà la planète. Les mondes chinois, japonais, coréens et arabes offrirent ainsi à la postérité des témoignages qui permettront bien plus tard de relier cet événement d'abord mystique à une réalité scientifique. L'histoire sombre cependant dans l'oubli, quand cette étoile qui était l'invitée des empereurs disparaît quelques semaines ou quelques mois après son arrivée. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, en Europe, que les choses redémarrent. En 1758, Charles Messier, un astronome français, parcourt le ciel avec sa lunette à la recherche de la comète de Halley, dont le retour est prédit pour bientôt. Un jour, il pense avoir mis la main dessus, alors qu'il observe en réalité les traces de l'événement de 1054. Confus par cette méprise, il entreprend alors la création d'un catalogue dont l'objectif est de répertorier les objets du ciel pour ne plus les confondre entre eux. Il entre alors le rémanent de 1054 au premier rang de son catalogue sous le nom de M1. L'événement de 1054 a donc désormais un nom et une position dans le ciel. Mais qu'est-ce que c'est ? William Herschel, un autre astronome et compositeur de musique sur son temps perdu, oui c'est possible, propose que M1 est une agglomération d'étoiles. En 1844, un autre William, Parsons celui-ci, fait une comparaison qui passera à la postérité. Pour lui, M1 a la forme d'un crabe. M1 gagne donc un second nom, celui de nébuleuse du crabe. La liaison entre l'étoile invitée de 1054 et la nébuleuse du crabe commence lorsqu'en 1921, John Charles Duncan démontre que la nébuleuse est en expansion, pendant qu'au même moment, Knut Landmark fait remarquer la proximité de la nébuleuse avec l'étoile de 1054. Il s'appuie pour cela sur les travaux de Jean-Baptiste et Édouard Biot qui avaient analysé au milieu du 19e siècle les témoignages chinois. On sait alors que l'étoile de 1054 est le produit d'une explosion, sans pour autant en connaître tout à fait la nature. La découverte de l'expansion de la nébuleuse, et surtout la vitesse à laquelle cette expansion a lieu, permet de remonter à son origine et de la dater. On comprend alors que la nébuleuse a 900 ans, un âge concordant parfaitement avec les témoignages. Ajoutez à cela la position de la nébuleuse qui correspond également avec les descriptions des observateurs chinois, et le doute n'est alors plus permis. M1, la nébuleuse du crabe, et l'étoile invitée de 1054. L'éclat de l'étoile, tel que décrite dans les sources historiques, permet alors de qualifier l'explosion à l'origine de la nébuleuse de supernova, notamment au travers des travaux de Mayall et Hoort entre 1939 et 1942. Une supernova est une explosion stellaire titanesque synonyme du champ du cygne d'une étoile massive. Pour la nébuleuse du crabe, on estime que l'étoile à l'origine de l'explosion avait une masse d'environ 8 à 12 fois celle du Soleil. Sa distance, 8000 années-lumière, permet de conclure qu'elle a tiré sa révérence il y a environ 8900 ans. Le temps nécessaire à la lumière pour parvenir jusqu'à la Terre a conduit les observateurs chinois à observer l'explosion dans un direct relatif, avec un retard de 8000 ans par rapport à l'événement. Quand je vous disais que regarder dans le ciel, c'est avant tout regarder dans le temps. L'étoile de 1054 n'est pas la seule à pouvoir être rattachée à une supernova. 4 autres ont été identifiées avec certitude comme telles. D'autres étoiles invitées, présentes notamment dans la littérature chinoise, pourraient être associées à des supernovas. Mais la faible qualité ou le nombre réduit de témoignages ne permet pas de les identifier comme telles avec certitude. J'aimerais vous montrer quelque chose. Attendez-moi, je reviens. Mais où est-ce qu'il est ? Je suis presque certain de l'avoir vu passer tout à l'heure. Peut-être la ranger d'à côté ? Ah, voilà. Mes amis, voici une antenne radio. Quelque peu usagée, mais suffisamment en état de marche pour mettre en évidence un truc vachement cool, vous allez voir. Au travers des yeux du télescope spatial Hubble, en lumière visible, la nébuleuse du Crabe est difficile à décrire. Elle ne ressemble pas, à mon avis, à un nuage, tel qu'on se l'imagine de prime abord. Elle ressemble plutôt à une sorte de cerveau ou d'éponge. C'est par ailleurs un objet plus ou moins ovale et éclairé de l'intérieur. Une sorte de photophore stellaire, si vous voulez. On distingue aussi des sortes de filaments que l'on pourrait assimiler à des neurones, si je filais la métaphore. Ces filaments relient les bords de la nébuleuse qui se présentent visuellement comme une structure plus dense, un peu comme des flammèches. On peut y voir du rouge, du bleu, du vert, du jaune et bien d'autres couleurs moins discernables au premier coup d'œil. Ah voilà, c'est branché. La nébuleuse cache en son sein un objet atypique et à bien des égards aussi extrême qu'étrange. Très peu visible, il n'en est pas moins remarquable quand on regarde la nébuleuse dans le spectre des ondes radio et des rayons X. Le signal que vous voyez à l'écran est la preuve de sa présence. Mais pour savoir d'où ça vient, il faut remonter toute la séquence qui conduit à sa création et à celle de la nébuleuse. Toutes les étoiles fusionnent dans leur phase principale de vie de l'hydrogène, l'élément chimique le plus léger dans l'univers. La fusion des noyaux libère de l'énergie au cœur de l'étoile qui crée une pression vers l'extérieur. Cette pression compense la gravité de l'étoile qui exerce, elle, une force vers l'intérieur de celle-ci. Cela crée un équilibre fragile mais stable. Pour plus de détails, je vous renvoie vers notre quatrième voyage où nous expliquions ce phénomène autour du Soleil. Pour rappel, la fusion de l'hydrogène crée de l'hélium, un élément plus lourd. Quand tout l'hydrogène de l'étoile a été transformé en hélium, l'étoile commence alors à fusionner cet hélium en carbone, un élément encore plus lourd, puis le carbone en oxygène, un élément encore plus lourd. A chaque changement de carburant, l'étoile évolue car l'énergie générée n'est plus la même et l'équilibre s'en trouve un peu chamboulé. À ce stade, les étoiles comme notre Soleil abandonnent la partie et meurent plutôt paisiblement, après avoir tout de même ravagé leur propre système solaire en ayant multiplié plusieurs milliers de fois leur volume. Ce type d'étoile, plutôt modeste par la taille, n'est pas assez massif pour réunir les conditions nécessaires à la fusion de l'oxygène en un élément plus lourd. L'histoire de la nébuleuse du Crabe est un peu différente, car l'étoile à l'origine de sa création était bien plus massive que le Soleil, comme on l'a vu précédemment. Après avoir fusionné la totalité de son hélium, la gravité a compressé le noyau stellaire, qui est alors rentré dans une spirale infernale. Le carbone a fusionné en néon en à peine quelques siècles, le néon en oxygène en à peine quelques années, l'oxygène en silicium en à peine quelques mois, et le silicium en fer en à peine quelques heures. La machine s'est alors d'un coup grippée, car le fer ne peut fusionner en rien. Et là, c'est le drame, car la pression issue de la fusion nucléaire, qui contrebalançait jusqu'alors l'écrasante gravité, a soudainement disparu. L'équilibre fragile a été rompu, la gravité l'a emporté, et l'étoile s'est effondrée sur elle-même. La compression fut si forte qu'une boule de fer de la taille de la Terre a été compressée en quelques instants en une boule de la taille d'une petite ville. Le tout à la vitesse fulgurante de 75 000 km par seconde. À cette vitesse, la compression des couches externes de l'étoile a créé une onde de choc qui a rebondi sur le noyau ferreux. Le rebond de l'onde a éjecté les couches extérieures de l'étoile dans un flash incroyable qui créa la supernova observée par les astronomes chinois du Moyen-Âge. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. La supernova, malgré le cataclysme qu'elle représente, ne pulvérise pas tout après son départ. À l'épicentre de l'explosion se trouve le cadavre de l'étoile, devenu entre-temps une étoile à neutrons. Un objet d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, mais avec un poids similaire à celui de la Terre tout entière. La densité de cette étoile particulière est si grande qu'elle déforme l'espace autour d'elle et perturbe le parcours de la lumière. En regardant cette étoile de face, vous pourriez presque en voir la face opposée. L'astre est d'ailleurs tellement lourd que s'il avait été un peu plus, il se serait transformé en trou noir. Avec une densité pareille, autant mettre le Mont Everest dans votre tasse à café. Ce qui se passe à l'intérieur de l'étoile à neutrons est alors particulièrement compliqué et à bien des écarts bien étrange. Personne n'est vraiment certain de la façon dont la matière se structure au cœur d'un astre aussi compact. Récemment, des chercheurs ont mis en évidence que la collision et par là même la destruction de deux étoiles à neutrons pourrait être un des phénomènes à l'origine de la création des éléments chimiques plus lourds que le fer, comme l'or ou l'uranium. Attendez, rendez-vous compte deux secondes. Vous seriez en ce moment même en train d'écouter cette émission grâce au reste d'une étoile morte non pas une fois, mais deux fois. C'est complètement dingue! Ce qui rend l'étoile à neutrons au centre de la nébuleuse du crabe encore plus fascinant, c'est sa vitesse de rotation. L'effondrement de l'étoile juste avant la supernova a en effet communiqué à l'étoile à neutrons alors en création une vitesse de rotation prodigieuse. Une étoile à neutrons tourne sur elle-même généralement plusieurs fois par seconde. Cette particularité est spécifique à un type d'étoile à neutrons que l'on appelle pulsar. Le pulsar du crabe, le nom donné à l'étoile à neutrons située au centre de la nébuleuse, effectue un tour complet sur lui-même en 33 millisecondes, moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Au milieu de cette débauche de phénomènes physiques, le pulsar est également la source d'un puissant champ magnétique, équivalent à des milliards de fois celui généré par le noyau terrestre. Autant dire que notre nouvel ami ne risque pas de perdre le nord. Les choses deviennent encore plus intéressantes quand on comprend que les pôles magnétiques ne sont pas alignés avec l'axe de rotation. Ces pulses énergétiques, qui lui donnent par ailleurs son nom, confèrent au pulsar une allure de phare stellaire. En effet, comme pour un phare côtier, la vitesse de rotation du pulsar lui est propre et permet donc de l'identifier avec certitude lorsque l'on tombe dessus. Cette régularité a conduit les scientifiques à considérer l'hypothèse d'un signal artificiel, autrement dit extraterrestre, lorsque ce type d'objet a été découvert. Pour l'anecdote, la plaque des sondes pionnières sur laquelle est inscrite quelques informations de base sur l'humanité au cas où les sondes seraient découvertes par une civilisation extraterrestre donne une position approximative de la Terre par rapport à 14 pulsars des environs. La NASA travaille par ailleurs sur un système de localisation spatiale basé sur la reconnaissance des pulsars. Le pulsar du crabe a été mis en évidence dès 1942. On remarque alors qu'une étoile peu brillante se trouve au centre de la nébuleuse. Au fur et à mesure des progrès technologiques, on remarque que l'étoile est une importante source d'ondes radio, puis de rayons X, et enfin qu'elle est l'un des objets les plus brillants en ondes gamma. Le profil de cette étoile de type jusqu'alors peu connu conduit à intensifier les études, jusqu'à être en mesure en 1968 de l'identifier formellement comme étant un pulsar. Le pulsar du crabe est ainsi l'un des premiers pulsars découverts et aussi le premier directement associé à un rémanent de supernova, un autre nom donné au reste de l'explosion de 1054 ayant formé la nébuleuse du crabe. La découverte, plutôt précoce dans l'ère d'étude des pulsars, est due à une particularité du crabe. En effet, celui-ci génère à intervalles réguliers des pulses bien plus forts que sa moyenne habituelle, ayant permis aux instruments de l'époque de le mettre en valeur, malgré sa vitesse de rotation particulièrement élevée. La nébuleuse du Crabe fait aujourd'hui 13 années-lumière de diamètre. Mais cela n'est qu'un état transitoire. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus demain. En plus d'être un des objets les plus changeants du ciel, certaines parties de la nébuleuse pouvant évoluer en seulement quelques jours, l'expansion de la nébuleuse et sa jeunesse font que ce que l'on observe aujourd'hui est très différent de ce que Charles Messier a observé il y a presque 200 ans. La nébuleuse grandit, et en grandissant, son aspect évolue. Si vous voulez en profiter dès aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de posséder un télescope hors de prix en orbite basse. La nébuleuse du Crabe est en effet facilement observable avec peu de matériel depuis votre jardin. Vous ne verrez pas les couleurs que Hubble a la chance de voir, mais pas d'inquiétude. Vous ne serez pas fâché de voir de vos propres yeux une merveilleuse nébuleuse, siège d'un des astres les plus fascinants du cosmos, le tout tranquillement installé sur une chaise longue à quelques 8000 années-lumière de distance. Je crois que le devoir m'appelle.
Wesh, c'est dur de se lever.
Restez tranquille, prenez votre temps. On arrive aux abords du système solaire interne, je vais juste devoir réajuster un peu notre trajectoire. Alors, je vais ralentir notre vitesse pour prendre une trajectoire un peu moins directe et être un peu moins prévisible. On va suivre le conseil que le décodeur nous a donné.
Le chemin le plus direct n'est pas nécessairement une source de succès.
Enfin, de ce que j'en ai compris, en tout cas. Ordinateur. Ouvre une nouvelle entrée. Journal de bord de la capsule. Le voyage prend une tournure plus agréable avec l'ouverture de la baie d'observation, et le temps file maintenant à vive allure, alors que nous nous approchons de la base des Sélénites. Et que le dénouement de notre aventure semble imminent. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais probablement pas un accueil chaleureux. La mise en garde du décodeur était pour le coup assez claire. Ah, je vais profiter du temps qu'il me reste pour me reposer. Je vais passer le vaisseau en mode automatique. Prochaine entrée dans le journal de bord dans un mois. En attendant, gardons la tête en l'air, les yeux ouverts, à la recherche de la Spoutniter.
Pour écouter ou réécouter cet épisode ou les précédents, rendez-vous sur le site de Radio U, radio-u.org, dans la section podcast. Vous trouverez, dans l'onglet réservé à la recherche de la Spoutniter, toutes les émissions avec en bonus quelques précisions.